Voilà, bonsoir à tous. Donc, séance du mardi 25 janvier 2022, cinquième séance consacrée à la lecture de l'être et le néant. Alors, je vais revenir sur ce qui a été dit à la fin de la précédente séance, parce que ça fait un certain temps, pour remettre les idées en place, et puis afin de mieux avancer dans notre lecture. Alors, je vais vous rassurer, l'introduction était vraiment difficile à lire, mais il fallait tout de même en parler. Vous allez voir que le texte devient beaucoup plus facile. Hein, beaucoup plus facile. Enfin,
plus facile. Moins difficile.
Moins difficile. Je dirais, on voit tout de même bien les enchaînements. Enfin, c'est clair, Sartre tout de même nous tient par la main, quoi. Enfin, c'est l'enfance de l'art, quoi. C'est... Bon. Alors, à la fin de son introduction, rappelez-vous, Sartre avait dégagé deux types d'êtres. L'être en soi, et puis l'être de la conscience qu'il appellera le pour-soi. Je ne reviens pas là-dessus. Mais il ne suffit pas de les distinguer pour comprendre comment se fait leur liaison. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui nous importe. Le problème qui est au cœur de l'être et le néant, c'est celui de savoir comment l'être des choses, l'être en soi, peut être dévoilé par la conscience, ou par le pour-soi. Comment, pour le dire autrement, comment l'homme peut être cet être qui se pose la question de l'être. Voilà, c'est ça la question, c'est ça le problème que Sartre va chercher à résoudre dans l'être et le néant. Alors, la meilleure manière de procéder pour avancer dans la réflexion ne peut pas consister à se contenter de distinguer deux types d'êtres. Et d'ailleurs, Sartre, au début de la première partie, rappelle que la conscience et puis le phénomène envisagés séparément sont des abstractions. Ce sont des abstractions, puisque il faut ici rappeler ce qui avait été montré dans l'introduction. La conscience n'existe pas seule séparément. Elle n'existe qu'en tant qu'elle est portée par l'objet qu'elle vise, puisqu'elle est conscience d'eux. Et de la même manière, il ne faut pas oublier non plus que le monde, le réel, si vous voulez, n'existe pas séparément de la conscience, il n'existe que par et pour la conscience. Et concrètement, qu'est-ce qui existe concrètement ? Ce n'est pas la conscience toute seule, ce n'est pas le monde tout seul, c'est leur rapport. Et Sartre nomme ce rapport, il a une expression pour désigner ce rapport. Ce rapport, c'est l'homme dans le monde. L'homme dans le monde, avec des tirets. Donc il faut partir de ce rapport. Si l'on veut comprendre ce que doit être l'homme pour pouvoir se rapporter au monde, pour comprendre ce qu'il doit être pour pouvoir se poser la question de l'être. Qu'en est-il de l'être de l'homme s'il est cet être qui se rapporte à l'être, qui se pose la question de l'être? Alors on va voir dans la première partie donc de l'œuvre, qui a pour titre « Le problème du néant ». Je rappelle, il y a quatre parties. Donc on va voir que c'est parce que le néant habite l'homme, c'est une expression de Sartre, c'est parce que le néant habite l'homme, parce qu'il est au cœur de la conscience, que l'être peut lui apparaître et que, de ce fait, l'homme peut s'interroger sur lui. Voilà, c'est ce qu'on va montrer. Alors, la première partie de l'être et le néant, dont je répète, il y en a quatre, elle contient deux grands chapitres, et ce soir, on va aborder le premier chapitre, hein, de cette première partie. Alors, le premier chapitre, il est intitulé « L'origine de la négation ». L'origine de la négation. Et puis le deuxième, c'est la mauvaise foi. Alors, ce que je pense qu'on va faire, là, c'est traiter ce soir ce premier chapitre, l'origine de la négation, et puis la prochaine fois, on abordera la mauvaise foi. Et là, ce sont vraiment des chapitres importants. Alors, je peux vous dire déjà, je crois vous l'avoir écrit en message internet, que, bon, dans la mesure où nous n'avons pas beaucoup de temps, et puis qu'on a forcément dû prendre beaucoup de temps pour exposer le début, je pense qu'on laissera partiellement la deuxième partie consacrée au pour-soi. Et puis, par contre, on abordera la troisième grande partie qui s'interroge sur les relations avec autrui. La quatrième, on la verra très superficiellement. Enfin, il nous faudrait 2 ans, en fait, pour vraiment traiter l'œuvre vraiment bien, quoi. Bon, mais là, ça va être juste. Et puis, parallèlement, on pourra peut-être faire quelques incursions dans l'œuvre littéraire, de façon limitative, pour compléter un petit peu, pour voir comment elle s'articule avec l'être et le néant. Bon, donc je reprends mon propos. Le premier chapitre, donc l'origine de la négation, contient lui-même 5 chapitres. Il contient lui-même 5 chapitres. Et ce soir, je lirai plus particulièrement les chapitres 1, 2 et 5. C'est ce que je vous ai dit. Et surtout le 5, très important. Alors, comme le montre le premier chapitre, là, je vais être assez rapide, je vais résumer l'analyse de Sartre. Comme le montre le premier chapitre, qui a pour titre « L'interrogation », eh bien, la meilleure manière d'aborder le concret, ce concret qu'est l'homme dans le monde, eh bien, c'est de partir de l'observation des conduites humaines. Et la première conduite qui servira de fil conducteur à cette recherche, eh bien, c'est l'attitude interrogative. Donc, vous voyez, je reprends ce que je viens de vous dire. Pour étudier, au fond, pour aborder l'homme dans le monde, eh bien, il faut examiner ses conduites, observer ses conduites, et on va commencer par la conduite interrogative. Donc, voyez ici qu'il y a une sorte de retournement, c'est-à-dire, en fait, pour aborder la question de l'être, eh bien, Sartre va commencer par s'interroger sur la question elle-même. Il va s'interroger sur la question. Il va examiner d'abord l'attitude humaine qui consiste à s'interroger sur l'être. Et que révèle cette attitude? Alors, là, je ne vous ai pas photocopié le texte, je vous donne simplement la page, page 43. Voilà ce que dit Sartre. Dans toute question, nous nous tenons en face d'un être que nous interrogeons. Toute question suppose donc un être qui questionne et un être qu'on questionne. Un être qui questionne et un être qu'on questionne. Très simple. Un questionné, si vous voulez, et un questionneur. Or, comme le remarque Sartre, dont je répète, je résume ici l'analyse, l'interrogation peut révéler 3 non-êtres. 3 non-êtres. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a d'abord le non-être qui concerne le questionneur. Car si il s'interroge, c'est parce qu'il a conscience de ne pas savoir. Il a conscience de ne pas savoir. Il ne sait pas. Donc ici, vous avez affaire au non-être du savoir. Hein ? On ne se pose pas de question si on sait. On ne se pose une question que si on ne sait pas. Donc il y a un non-être, ici, du point de vue du questionneur. Par ailleurs, cette fois-ci, ça va concerner le questionné. À la question concernant donc le questionné, l'être qu'on questionne, eh bien, il peut être apporté une réponse négative. C'est-à-dire qu'il est possible que cet être n'existe pas ou n'existe plus. Hein, si on se pose une question sur cet être, c'est peut-être une possibilité qu'il n'existe pas ou qu'il n'existe plus. Deuxième non-être. Et puis, troisième non-être, il faut ici ajouter que il faut ajouter ici ce que Sartre appelle, entre guillemets, le non-être de la limitation. Le non-être de la limitation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, j'attends de la réponse à ma question sur un être qu'elle me dise que cet être est telle ou telle chose. C'est ceci ou cela. Et si on me dit que cet être est ceci ou cela, eh bien, cette réponse exclut tout ce qu'il n'est pas. Et quand on donne, quand on indique de façon précise ce qu'est un être, on exclut tout ce qu'il n'est pas. Vous voyez ? Donc, la réponse nie tout ce que cet être n'est pas. Si c'est une table, ce n'est pas une chaise, ce n'est pas un fauteuil, ce n'est pas une armoire. Bon, c'est-à-dire en fait, toute définition est une détermination, si vous voulez. Et comme le dit Sartre, je cite, « C'est sur fond de non-être que s'effectue la détermination de l'être d'une chose. Hein, c'est sur fond de non-être que s'effectue la détermination de l'être d'une chose. Hein, quand on dit ce qu'est une chose, eh bien, forcément, on exclut ce qu'elle n'est pas. En conclusion, que révèle donc l'interrogation ? Je cite Sartre, elle révèle que nous sommes environnés de néant. Alors, néant et non-être, ce sont ici pour lui des termes équivalents. Hein ? Nous sommes environnés de néant. Et il ajoute, page 44, alors là, c'est une phrase très importante, c'est la possibilité permanente du non-être hors de nous et en nous qui conditionne nos questions sur l'être. Je reprends, c'est la possibilité permanente du non-être hors de nous et en nous qui conditionne nos questions sur l'être. Autrement dit, s'il n'y avait que de l'être, s'il n'y avait pas pour nous de non-être possible, hein, s'il n'y avait que de l'être, s'il n'y avait pas de non-être possible, eh bien jamais nous ne poserions de questions sur l'être. Si je me pose une question sur l'être, c'est parce qu'il y a toujours du non-être. C'est le non-être qui rend possible la question sur l'être. Vous voyez ? Bon. Alors, après avoir montré que l'interrogation donc révèle trois non-êtres, j'ai dit lesquels, il faut maintenant se demander quel est leur statut, quel est le statut de ces non-êtres. Alors, est-ce qu'ils ne relèvent que du discours ? Ou est-ce qu'ils relèvent donc d'un jugement, d'un pur et simple jugement négatif ? Mais c'est du discours. Ou est-ce qu'ils renvoient à une réalité ? Est-ce qu'ils renvoient à une réalité ? Est-ce qu'ils concernent une réalité ? Et là, je vais citer Sartre dans le chapitre 2. Vous voyez, je vais rapidement là. Voilà ce que dit Sartre au chapitre 2. Je n'ai pas encore photocopié ici de texte hein, à ce sujet, mais vous allez comprendre. La négation comme structure de la proposition judicative, oh, vous ne s'effrayez pas, la négation comme jugement en fait, hein, la négation comme jugement négatif par opposition au jugement affirmatif, si vous voyez ce que ça veut dire. Donc la négation comme structure de la proposition judicative, est-elle à l'origine du néant, du non-être, ou au contraire, est-ce le néant, comme structure du réel, qui est l'origine et le fondement de la négation ? Est-ce que La négation, c'est quelque chose qui relève purement et simplement du jugement, du discours. Voilà. Et un jugement négatif dit, bah, ça n'est pas ceci, ça n'est pas cela, mais bon, on n'est que dans le discours. Ou est-ce que la négation renvoie à quelque chose de réel? Est-ce qu'il y a une réalité négative, si vous voulez? Voilà. Bon, mais vous allez voir, ça va se comprendre. Ça va être plus facile en prenant des exemples. Et c'est le problème que je viens d'énoncer, il est posé dans le chapitre 2 qui a pour titre les négations. Les négations. Alors, il y a d'abord il y a plusieurs types de négations. Il y a des négations qui ne relèvent que du jugement, qui ne relèvent que du discours, et qui n'ont pas de réalité. Et Sartre nous donne un exemple au début du chapitre 2. Par exemple, je pense qu'il y a 1500 francs. Ce n'est pas encore l'euro à l'époque. Hein. Je pense qu'il y a 1500 francs dans mon portefeuille et je n'en compte réellement que 1300. Donc après avoir établi une comparaison entre le résultat escompté et puis le résultat constaté, bah, je conclus que je n'ai pas 1500 francs. Je conclus que je n'ai pas 1500 francs. Ici, donc, il y a un non-être. Il y a un non-être. Hein. Je n'ai pas 1500 francs. Mais le non-être que je découvre, mais seulement imputable. Il n'a aucune réalité. Il relève de mon erreur. Hein, voilà. Donc, il ne renvoie pas à une réalité, ce non-être. Hein. Il est de l'ordre du discours. Vous voyez ? Mais maintenant, comme vont le montrer les exemples qui vont suivre, eh bien, la négation n'exprime pas toujours seulement un jugement négatif. Elle peut aussi, ou en tout cas ce jugement négatif, il peut aussi avoir pour origine du non-être réel. Vous voyez, c'est-à-dire que dans le premier cas, celui que je vous ai donné, l'exemple que je vous ai donné, vous n'avez qu'un pur jugement négatif qui ne renvoie à aucun non-être dans la réalité. Là, nous allons voir que le jugement négatif peut renvoyer à un non-être réel. Évidemment, pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est, un non-être réel. Hein ? Mais je vous l'annonce. Et les exemples que nous allons justement étudier vont montrer qu'il y a du non-être réel, qu'il y a des réalités négatives. Et à ce moment-là, quand nous en parlons, quand nous émettons des jugements à propos de cette réalité négative, ces jugements n'inventent pas cette réalité. Hein ? Ils prennent pour source cette réalité. Donc, alors, ce non-être que nous allons justement faire apparaître, il se découvre par notre rapport aux choses, par le rapport que l'homme a aux choses. Et vous allez voir ici que l'interrogation n'est pas une attitude purement théorique. Ce n'est pas ici une attitude, si vous voulez, qui se borne à émettre des jugements. La conduite interrogative, c'est une conduite par laquelle, au fond, nous allons en quelque sorte au contact des choses. Nous allons au contact de la réalité pour faire surgir du non-être. Bon, c'est ce que nous allons montrer par les deux exemples que je vais justement étudier avec vous. Alors, il n'y en a pas deux, hein, il y en a plus que deux dans le chapitre, mais bon, pour aller plus vite, je prends deux exemples du chapitre 2 pour ne pas être trop long. Alors, vous aurez d'abord l'exemple du carburateur. L'exemple du carburateur, il est très simple. Et puis, le deuxième exemple que j'étudierai avec vous, c'est celui de l'absence de pierre. L'absence de Pierre que je constate dans le café où j'avais rendez-vous avec lui. Je vous ai déjà dit que Sartre était un pilier de bistrot. Hein. Donc, c'est souvent beaucoup d'exemples de café. Bon. Alors, on va prendre le premier. Alors là, par contre, je vous ai photocopier les textes. Alors, c'est de l'autre côté. Ah non, attendez, attendez. J'ai dû faire des découpages. Alors, il est où? Il est page 2. Il est en bas à gauche. Vous avez retrouvé là? Voilà. Alors, je lis le texte. Bon, c'est très court. Hein. Si mon auto a une panne, c'est le carburateur, les bougies, etc., etc., que j'interroge. Vous voyez, j'interroge pas une personne ici. Hein. J'interroge une chose. Hein. L'interrogation va être une attitude pratique. Vous voyez, si ma montre s'arrête, je puis interroger l'horloger sur les causes de cet arrêt. Mais c'est aux différents mécanismes de la montre que l'horloger, à son tour, posera des questions. Vous voyez, il fait la distinction entre une question qu'on pose à quelqu'un, vous voyez, où là, on est dans l'ordre du discours, et puis une question qui interroge les choses. Et là, ça induit une attitude pratique. Vous voyez. Alors, ce que j'attends du carburateur, ce que l'horloger attend des rouages de la montre, ce n'est pas un jugement, c'est un dévoilement d'être sur le fondement de quoi l'on puisse porter un jugement. Et si j'attends un dévoilement d'être, c'est que je suis préparé du même coup à l'éventualité d'un non-être. Si j'interroge le carburateur, c'est que je considère comme possible qu'il n'y ait rien dans le carburateur. Alors, pas trop vite, je reprends cet exemple. Donc, ma voiture tombe en panne. Alors, je me demande, aussitôt, d'où ça vient, d'où vient la panne, est-ce que ça vient du carburateur? Et donc, si ça vient du carburateur, ben forcément, je vais aller rechercher, je vais aller faire une enquête, je vais vérifier si c'est pas là. Je suis très, très mécanicien, donc aucun doute là-dessus. Et donc, mon interrogation est une conduite par laquelle j'attends donc du carburateur qu'il me dévoile s'il est bien la cause de la panne. Vous voyez, ma conduite interroge le carburateur et au fond, d'une certaine manière, je lui demande si c'est bien lui la cause de la panne. Évidemment, c'est une façon de parler. Donc, ma conduite interrogative implique la possibilité d'une réponse négative. Il se peut, en effet, que ce ne soit pas le carburateur qui soit la cause de la panne. Hein, je reprends le texte ici. Si j'interroge le carburateur, c'est que je considère comme possible qu'il n'y ait rien dans le carburateur. Hein, j'ai été voir le carburateur. Ce n'est pas le carburateur. Alors maintenant, je vais voir les bougies. Ah, c'est peut-être ça. Bon, vous voyez comment je procède. Bon. Donc, ici, vous voyez cet exemple très simple. On voit donc qu'avant tout jugement, la conduite interrogative consiste dans un rapport actif, à la chose que j'interroge, un carburateur, et cette interrogation implique la possibilité d'un non-être. Non, il n'y a rien dans le carburateur. Est-ce que c'est ça? Non, il n'y a rien dans le carburateur. Vous voyez? Et alors ici, concernant cet exemple, Sartre n'emploie pas encore le terme de néantisation, pour caractériser l'interrogation, mais d'ores et déjà, on peut dire que la conduite interrogative repose sur un acte de néantisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un acte de néantisation, c'est-à-dire cet acte de néantisation consiste à dévoiler un rien. Un rien, c'est-à-dire un non-être, un néant au cœur de l'être. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le carburateur. Il n'y a rien dans le carburateur. C'est mon attitude, c'est mon attitude interrogative qui fait surgir ce rien, qui dévoile ce rien. dans l'être. Et donc, la question posée au carburateur, je répète, ce n'est pas une question théorique. Hein. Ce n'est pas une question théorique destinée à établir ce qu'on a déjà constaté. Hein. Non, c'est bien une relation pratique qui consiste à dévoiler, hein, le verbe est important, à dévoiler du non-être au cœur de l'être. Non, ce n'est pas le carburateur. Non, c'est rien, il n'y a rien dans le carburateur. Deuxième exemple, l'exemple de l'absence de Pierre avec lequel j'ai rendez-vous au café. Alors là, cet exemple, oui, il va lui montrer aussi, encore une fois, que l'interrogation est un acte de néantisation par lequel j'introduis du non-être au cœur de l'être. J'introduis du néant au cœur de l'être. Alors évidemment, ici, on va regarder le texte très attentivement. C'est le texte... Voilà, je l'ai trouvé. Bon, lisons progressivement, on ne va pas tout lire, mais quelques extraits précis. Lisons dès le début, ligne 1. Mais si nous voulons décider à coup sûr, il n'est que de considérer un jugement négatif en lui-même et de nous demander s'il fait apparaître le non-être au sein de l'être ou s'il se borne à fixer une découverte antérieure. J'ai rendez-vous avec Pierre à 4 heures. J'arrive en retard d'un quart d'heure. Pierre est toujours exact. M'aura-t-il attendu ? Je regarde la salle, les consommateurs, et je dis, il n'est pas là. Y a-t-il une intuition de l'absence de Pierre, ou bien la négation n'intervient-elle qu'avec le jugement ? À première vue, il semble absurde de parler ici d'intuition, puisque justement, il ne saurait y avoir intuition de rien, et que l'absence de Pierre est ce rien, pourtant, la conscience populaire témoigne de cette intuition. Ne dit-on pas, par exemple, « J'ai tout de suite vu qu'il n'était pas là. »
Ah, c'est vrai, ça.
« Ah, j'ai vu qu'il n'était pas là. » En fait, c'est une expression très, très, très remarquable. Hein. Alors, prenons le temps d'expliquer ça. A priori, il serait absurde de parler d'une intuition de l'absence de Pierre. A priori, c'est absurde de parler comme ça, parce que qu'est-ce que c'est que... Intuition, ici, entendons-le au sens ordinaire. Hein. Intuitionner, au sens ordinaire du mot, c'est voir. C'est voir, c'est saisir immédiatement, par la vue. Or, ici, quand on intuitionne quelque chose, on intuitionne une présence. Il paraît absurde de parler de l'intuition d'une absence. On ne voit pas comment on pourrait intuitionner une absence. Ça paraît absurde. Quelque chose qui n'est pas. Or, et c'est là que Sartre fait cette remarque, pourtant, la conscience populaire témoigne d'une telle intuition, puisqu'on dit en effet « j'ai vu tout de suite qu'il n'était pas là ». Alors pourquoi ? Hein, comment se peut-il qu'on puisse dire « j'ai vu tout de suite qu'il n'était pas là » ? Comment expliquer ce fait ? Alors là, vous allez voir que Sartre va montrer que l'absence de Pierre est intuitionnée grâce à une double néantisation. Grâce à une double néantisation, et je vais à la conclusion de l'exemple, et après je reviens au développement. La conclusion de l'exemple est énoncée à la ligne 65, ligne 64-66 plus exactement. Regardez à la fin, vous voyez, vous avez trouvé, en bas de la page, Ce qui sert de fondement au jugement, Pierre n'est pas là. C'est donc bien la saisie intuitive d'une double néantisation. Évidemment, vous voyez, c'est ce qu'il dit, hein. Il y a une double néantisation. Alors évidemment, il va falloir expliquer, comprendre, hein, ce qu'est cette double néantisation qui aboutit à l'énoncé « Pierre n'est pas là ». Alors, voyons les choses progressivement. Qu'est-ce que je fais quand j'entre dans le café pour voir que Pierre n'est pas là? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous allez voir que, je reprends les termes de Sartre, mais vous allez voir, ça se comprend, vous allez voir que je néantis d'abord le fond du café pour faire apparaître les visages des personnes qui se trouvent dans le café, et parmi lesquelles il y a peut-être Pierre. Première étape, donc. Hein, je néantis d'abord le fond du café pour faire apparaître les visages. Alors, ligne 29 à 32. Ouais. Ligne 29 à 32. Et toutes les... Attendez. Est-ce que je... Excusez-moi. Non, c'est pas ligne 29 à 32. C'est moi qui me suis trompé de ligne. C'est ligne 29 à 32. Lorsque j'entre dans ce café, voilà. Lorsque j'entre dans ce café pour y chercher Pierre, il se fait une organisation synthétique de tous les objets du café en fond. Sur quoi Pierre est donné comme devant paraître. Et cette organisation du café en fond est une première néantisation. Imaginez que j'entre dans cette salle, je cherche l'un d'entre vous. Qu'est-ce que je fais? Et comment je procède? Je commence par constituer la salle en fond, c'est-à-dire en fait à effacer un peu sa présence, si vous voulez, à la neutraliser en quelque sorte, pour essayer de faire apparaître la personne que je recherche, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, la première néantisation, elle consiste en quelque sorte à détacher des figures sur le fond. Vous voyez? Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, ligne 37, vous allez plus loin. Ainsi, cette néantisation première de toutes les formes qui paraissent et s'engloutissent dans la totale équivalence d'un fond, c'est-à-dire tout est, hein, quand c'est un fond, tout est, il y a un magma, quoi, hein, je ne fais plus de différence entre les choses qui font partie de ce fond. Eh bien, cette néantisation première est la condition nécessaire pour l'apparition de la forme principale, qui est ici la personne de Pierre. Donc, vous voyez que la première néantisation consiste, comme je l'ai dit, à néantir d'abord le fond pour faire émerger la figure de Pierre. Donc, elle consiste à détacher, à essayer de détacher cette figure du fond. Et ensuite, aussitôt, vous avez une deuxième néantisation qui est présentée dans la foulée. Et cette deuxième néantisation, elle va consister à regarder successivement les visages des individus comme pour y superposer le visage de Pierre, hein, comme pour y superposer le visage de Pierre, et je vois ainsi qu'ils ne sont pas le visage de Pierre. Ah, non, non c'est pas, je balaye du regard les personnes qui sont dans la salle, c'est pas lui. Mais, oui, et voilà comment je procède, hein, deuxième néantisation. Donc première néantisation, hein, on fait détacher les figures du fond, et ensuite... je regarde successivement les visages et chaque fois je dis « Ah non, c'est pas Pierre. Hein? » Voilà comment ça se passe. Alors, et je lis, ligne 41, « Et cette néantisation est donnée à mon intuition. Je suis témoin de l'évanouissement successif de tous les objets que je regarde, en particulier des visages, qui me retiennent un instant, et si c'était Pierre, et qui se décomposent aussitôt, précisément parce qu'ils ne sont pas le visage de Pierre. Et je m'arrête un instant sans visage, il ne m'intéresse que pour savoir si c'est Pierre, et puis hop, je vois que ce n'est pas Pierre, hop, il s'efface le visage, hein, je passe à autre chose. Vous voyez, c'est exactement comme ça qu'on procède. Et oui, c'est comme ça que nous procédons sans discours. Hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est une description ici de l'expérience qui est la nôtre hein, quand nous cherchons une personne dans une salle, hein, quand nous la cherchons parce que nous avions rendez-vous avec elle. Hein, c'est comme ça que nous faisons. Ligne 46 à 55. Ligne 46 à 55. Si toutefois je découvrais enfin Pierre, mon intuition serait remplie d'un élément solide. Je serais soudain fasciné par son visage. Et tout le café s'organiserait autour de lui en présence discrète. Il serait au centre, hein, en quelque sorte. Mais justement, Pierre n'est pas là. Il est absent de tout le café. Son absence fige le café dans son évanescence. Le café demeure fond. Il persiste à s'offrir comme totalité indifférenciée à ma seule attention marginale. Il glisse en arrière. Il poursuit sa néantisation. Alors dès lors que je n'ai pas trouvé le visage de Pierre, comme si le café se disparaissait, mon attention, vous voyez, je regarde plus rien. Quoi. Je vois, mais je ne regarde pas. Conclusion, ligne 70 à 73, en haut, colonne de droite. Alors comment exprimer donc le processus de néantisation qui a conduit à intuitionner l'absence de Pierre, hein? Comment décrire ce processus? Ben voilà comment Sartre le décrit, mais précisément, je m'attendais à voir Pierre et mon attente a fait arriver l'absence de Pierre comme un événement réel concernant ce café. C'est un fait objectif à présent que cette absence. Je l'ai découverte. Alors après, laissons la phrase. Hein. Elle se présente comme un rapport synthétique de Pierre. Je ne sais plus, là, il y a un mot qui me manque. Pierre absent hante ce café. Pierre absent. Oui, c'est comme si effectivement Pierre, l'absence de Pierre hantait le café. C'est ça qui est un verbe assez remarquable. Hein. Donc, vous voyez ici, ce que je retiens du propos de Sartre, c'est cette idée que l'absence de Pierre est un événement que je produis. Qui résulte au fond de mon interrogation. C'est un événement réel concernant ce café. C'est un fait objectif, ce n'est pas quelque chose qui est purement subjectif. Hein? Et bien sûr que cet événement objectif vient de moi. C'est parce que j'interroge le café, parce que j'ai une attitude interrogative à l'égard du café, que je fais surgir hein, cette absence comme un événement réel. Je vois donc bien l'absence de Pierre. Voilà, effectivement, comprenez maintenant qu'on peut prendre au sérieux l'expression « je vois l'absence de Pierre ». Évidemment, cette absence n'est pas donnée parmi les choses, parmi les visages, dans le café. C'est pas bien sûr une intuition, l'intuition d'une présence. Mais on peut dire, oui, d'une certaine façon, qu'on voit l'absence de Pierre. On voit qu'il n'est pas là. Et cette absence, je répète, cette absence que je vois, c'est moi-même qui l'a fait advenir, c'est moi qui fais advenir le néant au cœur de l'être par mon attitude interrogative. C'est moi qui fais advenir du néant dans l'être par mon attitude interrogative. Je néantise le café, et en néantisant le café, eh bien, je vois que Pierre ne s'y trouve pas. Qu'il est absent. Vous voyez que l'énoncé « Pierre n'est pas là », ce n'est pas un pur jugement théorique. C'est pas un pur jugement théorique, c'est pas un jugement négatif qui se contente d'entériner une découverte, la découverte d'un fait déjà fait. Hein. Non, c'est un jugement négatif fondé sur un fait objectif. L'absence de Pierre est un fait réel que je découvre par l'acte de néantisation. Hein, voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, à quelle conclusion mène toute cette analyse et les exemples utilisés par Sartre ? Eh bien, tout cela nous montre que l'homme est cet être qui peut voir du néant. L'homme est cet être qui peut voir du néant. Il peut voir une absence. L'absence, si vous voulez, l'absence de Pierre, c'est une réalité négative. Et pour désigner ce type de réalité négative, comme une absence, eh bien Sartre utilise un terme, il forge un terme, le terme de négativité. Il va inventer un terme, hein, il va former un néologisme, le terme de négativité. Et à la fin du chapitre 4, alors vous ne l'avez pas, je n'ai pas photocopié, voilà ce qu'il dit pour définir les négativités. Les négativités, écrit-il, sont des réalités qui ne sont pas seulement objets de jugement, mais qui sont éprouvées, combattues, redoutées par l'être humain. Hein, ce sont, je répète, des réalités qui sont éprouvées, combattues, redoutées par l'être humain et qui sont habitées par la négation dans leur infrastructure comme par une condition nécessaire de leur existence. Laissons les formules un peu compliquées, disons que c'est une réalité négative que nous éprouvons comme telle. Alors parmi ces négativités, vous avez l'absence, vous avez aussi la distance, vous avez aussi la répulsion, vous avez le regret, il y en a d'autres encore. Ce sont des réalités négatives. Alors on va essayer d'expliquer chacune, hein, de celles que je viens de vous citer, ou quelques-unes en tout cas. Donc l'absence. L'absence, c'est la négation d'un être qu'on attendait. L'absence, c'est une négation qui est éprouvée. Qui est éprouvée, puisque à l'issue d'une attente. Hein, bon. C'est une négativité. La distance est une négativité, car elle intervient, dit Sartre, à titre de négation d'une proximité absolue. La distance, c'est la négation d'une proximité absolue. Elle ne s'éprouve que comme négation d'une proximité absolue. Ouais. Elle implique une attitude, hein, qui consiste au fond à souhaiter ou avoir une proximité absolue, puis c'est pas ce qui se passe, hein. Il y a une distance, les points sont séparés. Hein? Quand il y a une distance, ça veut dire qu'il y a des points qui sont séparés par une certaine longueur. Et vous voyez, ça, c'est pas quelque chose qui est purement de l'ordre des mathématiques, hein, finalement. Pour parler de distance, il faut effectivement nier une proximité absolue. Et puis, qu'est-ce que c'est que le regret ? Le regret est une négativité, au sens où il est la négation éprouvée par le fait que quelque chose a eu lieu. Ou l'inverse, quelque chose n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, en fait, je souhaitais que se produise quelque chose, ça n'a pas eu lieu. Ou je souhaitais que ça ne se produise pas, et ça a eu lieu. Vous voyez ? C'est ça le regret. Hein ? Le regret, c'est une négation, encore une fois, éprouvée. C'est une négation éprouvée. Et c'est nous qui faisons en quelque sorte surgir ces négativités. C'est notre attitude pratique, interrogative sur le monde qui fait apparaître ce néant dans l'être. Et ces fameuses négativités. Bon, alors maintenant, le problème qui va se poser est le suivant. Le problème qui va se poser, c'est celui de savoir d'où vient cette négation. Alors, vous avez, pour vous montrer que il n'y a pas plus clair que Sartre, contrairement à vos médisances, Je vais vous montrer, début du chapitre 5, que franchement, on ne peut pas faire plus limpide tout de même. Chapitre 5, l'origine du néant. Hein, ce... Eh bien, il vous mâche le travail. Il vous récapitule le raisonnement qu'il a suivi. Il vous en indique les étapes. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui font ce travail tout de même. Alors, regardez Montaigne. Hein. Alors lui, franchement, pour essayer de cerner la progression de son argumentation, ça allait se lever tôt. Ben là, Sartre, il vous mâche tout. Alors qu'on ne dise pas qu'il est obscur. Regardez bien. Je commence. Il résume les étapes qu'il a suivies depuis le début. Première étape, je lis. Nous avons posé d'abord la question de l'être. Effectivement, c'est ce qu'il a fait à la fin de l'introduction et au début de la première partie. Nous avons posé d'abord la question de l'être. Puis, deuxième étape, nous retournons sur cette question même, conçue comme un type de conduite humaine, nous l'avons interrogée à son tour. Et nous avons alors dû reconnaître que si la négation n'existait pas, aucune question ne saurait être posée, en particulier celle de l'être. C'est-à-dire, au fond, ici, deuxième étape, il a montré que, à l'origine de toute question, de toute interrogation, il y avait de la négation, il y avait du non-être. C'est ce qu'on a montré. Et puis, troisième étape, mais cette négation elle-même, envisagée de plus près, nous a renvoyé au néant comme son origine et son fondement, pour qu'il y ait de la négation dans le monde, et pour que nous puissions par conséquent nous interroger sur l'être, il faut que le néant soit donné en quelque façon. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la négation, il faut du néant. Hein, il faut du néant. Alors si je récapitule, je résume ça, hein, la question de l'être a pour condition la négation, qui elle-même a pour origine le néant. Et analyse régressive. Et on va de condition en condition. Pour qu'il y ait question de l'être, il faut de la négation. Pour qu'il y ait de la négation, il faut du néant. Il faut qu'il y ait une réalité négative qu'on appelle le néant. Il faut, dit Sartre, que le néant soit donné au cœur de l'être. Il faut que le néant soit donné au cœur de l'être pour que nous puissions nous interroger sur l'être. Bon, alors voilà, maintenant, la question qu'il faut aborder, c'est d'où vient le néant ? Et ça, c'est l'objet du chapitre 5. D'où vient le néant ? Quelle est l'origine du néant ? Alors, là aussi, si on regarde ça, il va doucement, méthodiquement. On ne peut pas trouver l'origine du néant dans l'être en soi. L'être en soi, rappelez-vous, c'est l'être qui est ce qu'il est. C'est l'être qui est ce qu'il est, c'est-à-dire au fond l'être des choses. Hein, pour les choses sont ce qu'elles sont. L'être en soi, c'est un être qui est plein de lui-même, qui ne se rapporte pas à autre chose que lui. Enfin, vous voyez, bon, c'est ça l'être en soi. Eh bien, le néant ne peut pas venir de l'être en soi. Il ne peut pas venir de cet être. Comment, en effet, un être qui est ce qu'il est, pourrait-il faire apparaître du non-être ? Non. Un tel être ne peut pas faire apparaître du non-être. Il n'y a pas de néant qui puisse surgir de ce type d'être. Donc, ça ne peut pas être les choses, pour simplifier, ça ne peut pas être l'être des choses qui fasse surgir du non-être, du néant. Deuxième remarque. Le néant n'est pas non plus à l'origine de lui-même, puisqu'il n'est pas par définition. Hein, le néant ne peut pas surgir de lui-même. Le néant, d'ailleurs, ne peut être conçu qu'à partir de l'être. Le néant suppose l'être. Le néant, c'est toujours le non-être de quelque chose. Hein, c'est toujours un néant déterminé, si vous voulez. Hein. Donc, il ne peut procéder que de l'être. Il vient toujours après l'être, si vous voulez. Bon. Alors, vous voyez comment les choses clarifient. Pour qu'il y ait du néant, alors, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, pour qu'il y ait du néant, il faut qu'existe un être qui ne soit pas être en soi. Il faut qu'il existe un être par lequel il vient au monde. Hein, il faut qu'il existe un être qui soit tel qu'il produise du néant. Alors, je cite Sartre, et là, vous avez, regardez la feuille numéro 2, je vous ai photocopié le texte. Feuille numéro 2, ligne 1 à 3. En haut. L'être par qui le néant arrive dans le monde est un être, en qui, dans son être, il est question du néant de son être. Bon, alors, ok, d'accord. Ok, ça va s'éclaircir après. L'être par qui, et là, regardez la phrase en italique par contre. L'être par qui le néant vient au monde doit être son propre néant. Alors, c'est ça qu'il va falloir expliquer. C'est-à-dire que vous allez comprendre, vous avez compris que le néant vient au monde par l'homme. Hein, c'est l'homme qui fait, par son attitude interrogative, surgir du néant dans l'être, ça vous avez compris. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi l'homme ? Qu'est-ce qui fait que l'homme peut faire surgir du néant, peut faire apparaître du néant dans l'être ? C'est ça la question. Et là, la réponse est déjà donnée, mais sauf que elle ne peut pas vous paraître claire pour l'instant. Pourquoi l'homme fait-il surgir du néant dans l'être ? Parce que, comme le dit Sartre, il est son propre néant. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est ça que je dois maintenant expliquer. Vous voyez ? Et c'est comme ça que ça procède. Hein ? Progressivement. Alors, donc, vous avez compris. Alors, maintenant, donc, on va essayer d'expliquer ça. Une chose est certaine, cet être existe. Il y a un être. Il y a un être à l'origine du néant. Ça, c'est sûr. Il y a un être à l'origine du néant, puisque, comme on l'a vu, la réalité du néant est bel et bien éprouvée à l'occasion d'une conduite interrogative. Vous voyez, on l'a vu avec les exemples que j'ai cités. Hein. Donc, il y a un être qui est à l'origine du néant. Et cet être, c'est l'homme. Ça, c'est clair. Hein, c'est par son rapport aux choses, hein, par son attitude interrogative à l'égard des choses, que l'homme peut faire surgir du néant dans l'être. Alors, vous aurez remarqué aussi, deuxième chose, que Sartre évite de parler de l'homme. Enfin, il parle de réalité humaine. Ah, pourquoi ? Alors ça va, vous allez comprendre mieux ça par la suite. Parce que, pourquoi il préfère dire la réalité humaine ? Pourquoi il ne parle pas de l'homme ? Parce que l'homme, si vous dites l'homme, vous laissez croire que l'homme est un être comme les choses, qu'il a une réalité qui est donnée, comme est donnée la réalité des choses. Comme si l'homme, quand vous dites l'homme, l'homme, vous laissez penser, vous laissez croire que l'homme est une fois pour toutes ce qu'il est. Hein, qu'il a une essence, hein, comme les choses sont ce qu'elles sont. Vous voyez ? Pour ça que Sartre ne veut pas parler de l'homme, mais parle plutôt de réalité humaine. Mais ça, vous allez comprendre mieux après. Si l'homme, donc, et c'est ce que nous allons comprendre, est le seul être qui peut se poser la question de l'être, c'est parce qu'il est le seul être à porter en lui du néant. C'est parce qu'il est le seul être à porter en lui du néant, c'est parce qu'il est, je répète, son propre néant. Bon, alors, évidemment, pour l'instant, je n'ai pas avancé. Je n'ai fait que commenter la question. Simplement, avant de montrer comment Sartre va avancer, je voudrais écarter un contresens. Je voudrais, évidemment, d'abord, si... comme ça, dans une conversation avec quelqu'un, vous lui lancez à l'emporte-pièce que l'homme est son propre néant, il va vous regarder. Il va se demander si vous êtes clair, hein, franchement. Donc, effectivement, c'est une formule qui ne peut pas se comprendre indépendamment de la démonstration de Sartre. Hein, c'est pas possible. Hein, c'est... Ou alors, ça a l'air d'une formule assez grossière. Ça fait très philosophique, quoi, hein, dans le mauvais sens. Alors, mais ici, et puis en même temps, je voudrais qu'on évite un contresens. Parce que, actuellement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un nom incroyable de bouquin qui imite le titre de Sartre, L'être et le néant. C'est Le traître et le néant. C'est Houellebecq, sort un bouquin qui s'appelle L'anéantissement. Alors tout de suite, on se dit, ah ben ça, c'est du Sartre. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Parce que si vous avez, je pense vous l'avoir dit, et ça, on va le vérifier, le terme de néant n'a rien de morbide pour Sartre. Absolument rien. Le pouvoir néantisant de l'homme n'exprime aucune pulsion de mort. Hein, puisque j'emprunte ce terme à Freud, il n'exprime aucune tendance vers la mort et vers la destruction. Hein, comprenez bien, c'est pas ça du tout, du tout. La néantisation, ce n'est pas un anéantissement. C'est pas le contraire d'une création. Elle est la néantisation, elle est l'acte, comme je vous l'ai dit, elle est l'acte par lequel l'homme produit du néant au cœur de l'être. Et toute la question, évidemment, est de savoir ce qui fait que l'homme est cet être qui produit du néant. Alors, pour l'instant, la seule chose qu'est dit Sartre, c'est qu'il est son propre néant. C'est parce qu'il est son propre néant. Ben, essayons de comprendre. Et Sartre, d'ailleurs, nous invite à... c'est une remarque qu'il fait dans son texte, il nous invite, regardez lignes 6, 7 et 8, reste à savoir dans quelle région délicate et exquise de l'être nous rencontrerons l'être qui est son propre néant. Vous voyez maintenant, il va falloir un être spécial, singulier, qui est son propre néant et qui, parce qu'il est son propre néant, produit du néant. Allez, on va essayer de comprendre ça. Et pour justement comprendre ce que cela veut dire, eh bien, Sartre va reprendre l'examen de la conduite interrogative dans les lignes qui vont suivre. C'est pour ça que je vous ai donné tout le texte. Alors, vous allez voir que cette conduite interrogative met en jeu une double néantisation. Une double néantisation. Alors, la première concerne l'être questionné. Par exemple, le carburateur. Vous voyez, vous avez une première néantisation qui concerne la chose qu'on interroge. Le carburateur. L'interrogation, c'est un acte de néantisation, rappelons-le, qui dévoile du néant au cœur de l'être, hein, puisque elle dévoile... L'interrogation, elle dévoile qu'il n'y a rien dans le carburateur. Donc, premier acte de néantisation. Cette première néantisation repose sur une deuxième néantisation qui concerne cette fois-ci le questionneur, l'être qui interroge, c'est-à-dire l'homme. La question sur le carburateur suppose en effet à son tour que le questionneur, hein, l'être qui interroge, opère, comme dit Sartre, un recul néantisant. C'est-à-dire que pour se poser la question du carburateur, eh bien, il faut que celui qui questionne opère, c'est l'expression de Sartre, opère un recul néantisant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour pouvoir se poser une question sur les choses, pour pouvoir poser une question aux choses, pour dévoiler ainsi du néant dans l'être, eh bien, l'être qui interroge, le questionneur, doit être capable d'opérer un recul par rapport à la réalité, il doit être capable d'échapper à l'être, et vous allez voir même que Sartre va parler ici de désengluement, il faut que l'homme soit capable de se désengluer de l'être pour pouvoir se poser des questions sur l'être. Il faut qu'il ne soit pas lui-même en quelque sorte englobé dans l'être pour pouvoir se poser des questions sur l'être. Et ici, alors, on va lire le texte, et puis on va bien essayer de bien comprendre tout cela progressivement. Regardez bien le texte, donc, numéro 3, à partir de la ligne 9. Nous serons aidés dans notre recherche par un examen plus complet de la conduite qui nous a servi de point de départ. Il faut donc revenir à l'interrogation. Nous avons vu, on s'en souvient, que toute question pose par essence la possibilité d'une réponse négative. Dans la question, on interroge un être sur son être ou sur sa manière d'être. Pensez au carburateur. Et cette manière d'être ou cet être est voilée. Une possibilité reste toujours ouverte pour qu'il se dévoile comme un néant. Mais du fait même qu'on envisage qu'un existant peut toujours se dévoiler comme rien, toute question suppose qu'on réalise un recul néantisant par rapport aux données qui deviennent simple présentation. Laissons la phrase. Je vais ligne 30. Il importe donc que le questionneur et la possibilité permanente de se décrocher des séries causales qui constituent l'être et qui ne peuvent produire que de l'être. Si nous admettions en effet que la question est déterminée dans le questionneur par un déterminisme universel, elle cesserait non seulement d'être intelligible, mais même concevable. Une cause réelle, en effet, produit un effet réel, et l'être causé est tout entier engagé par la cause dans la positivité, dans la mesure où il dépend dans son être de la cause. Il ne saurait avoir en lui le moindre germe de néant. Il ne saurait avoir en lui le moindre germe de néant en tant que le questionneur doit pouvoir opérer par rapport au questionné une sorte de recul néantisant. Il échappe à l'ordre causal du monde. Il se désenglue de l'être. Cela signifie que par un double mouvement de néantisation, il néantise le questionné par rapport à lui, etc., etc. Voilà. Je sais que là, ça a dû vous paraître compliqué. Mais non, ce n'est pas compliqué. Est-ce que ça veut dire quoi? Alors, vous avez remarqué tous les verbes qui reviennent, se décrocher d'eux, se désengluer d'eux, hein, des verbes qui reviennent sans arrêt. Au fond, il ne peut y avoir de question sur l'être que si celui qui questionne échappe à ce qu'on appelle le déterminisme. Alors, le déterminisme qui régit toutes les choses dans le monde. Qu'est-ce que c'est que le déterminisme? Je rappelle ce que c'est que le déterminisme. C'est le principe qui est fondateur des sciences. Hein. C'est le principe selon lequel tout ce qui existe, tout ce qui se produit dans le monde, eh bien, a nécessairement une cause. Tout ce qui existe, tout ce qui se produit dans le monde, existe et se produit en vertu de causes nécessaires. Hein ? C'est-à-dire, au fond, l'être de ce qui se produit est l'effet, est purement et simplement l'effet de l'être qui l'engendre. C'est-à-dire que ce qu'est un être qui est produit, eh bien, n'est que l'effet de l'être qui l'engendre. Il n'est que l'effet de sa cause, quoi. Il n'est rien d'autre que ça. Ou d'ailleurs, Sartre a une formule pour résumer tout ce que je dis là, sur le déterminisme, il dit « l'être ne saurait engendrer que l'être ». C'est-à-dire, au fond, ce que un être qui est produit, un être qui existe, n'est jamais que le produit de sa cause, et rien d'autre. Bon, eh bien, si l'homme était lui-même pris dans ce déterminisme, si son attitude interrogative était le pur et simple résultat d'un enchaînement de causes, eh bien, il ne pourrait pas prendre du recul, il ne pourrait pas avoir cette attitude de recul grâce à laquelle il questionne les choses. C'est-à-dire pour que l'homme puisse se poser une question sur l'être des choses, il faut que lui-même ne soit pas pris dans l'enchaînement des causes. Vous voyez, il faut qu'il fasse exception au déterminisme, si vous voulez. Il faut, pour que l'homme puisse s'interroger sur l'ordre causal régit le monde, eh bien, il faut que lui-même, en son être, ne soit pas pris dans cet ordre causal. Et même la question des causes ne peut être posée que par un être qui lui-même n'est pas pris dans le réseau des causes. Vous voyez ? C'est, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, non ? C'est pas clair. Alors, on va reprendre. Là, en fait, si vous voulez, pour le déterminisme, tout ce qui existe est déterminé par des causes nécessaires. On est d'accord ? Bon, si l'homme était pris lui-même dans cette série de causes, si au fond son être était purement et simplement déterminé par des causes, eh bien, il ne pourrait pas adopter de distance à l'égard des choses qui l'interrogent. Au fond, l'idée est la suivante, c'est que pour que l'homme puisse s'interroger sur l'être, s'interroger sur le monde, il ne faut pas qu'il fasse partie du monde, d'une certaine manière. Il faut qu'il ait le pouvoir de se mettre à distance de l'être, se mettre à distance du monde. C'est plus clair ou c'est pas clair ? Vous voyez, en fait, si vous voulez, tout ce qui existe et qui est produit par des causes, eh bien, est entièrement englué dans l'être. Tandis que l'homme a justement le pouvoir de s'interroger sur les choses parce qu'il peut se désengluer de l'être. Il peut s'en distancier. Et au fond, la néantisation de l'homme, eh bien, exprime justement ce pouvoir de distanciation, ce pouvoir finalement qui lui permet d'échapper à l'ordre causal des choses. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que, bon, je reprends ça, si l'homme était entièrement déterminé par des causes, il ne pourrait pas questionner l'être. Il ne pourrait pas adopter le fameux recul néantisant. Oui. Le recul néantisant montre qu'il a un pouvoir d'initiative, si vous voulez, qui échappe justement au déterminisme qui régit le monde. Et c'est ça que Sartre ici veut montrer. Donc les questions qu'il pose ici sur le monde présupposent qu'il a la possibilité, je cite Sartre, de se décrocher des séries causales qui constituent l'être. La possibilité de se décrocher des séries causales qui constitue l'être, c'est-à-dire qu'au fond, il est capable de s'arracher à l'être. Il est capable de s'arracher à l'être, et c'est pourquoi il peut questionner l'être. Est-ce que c'est plus clair ?
Bon. Prendre un peu de distance ?
Alors, c'est pas un peu de distance, c'est une distance radicale. C'est-à-dire que si l'homme était une chose comme les autres choses, il serait entièrement déterminé. Et est-ce qu'il y a en l'homme, justement, quelque chose qui fait qu'il n'est pas comme une chose et qu'il peut adopter ce que Sartre appelle le recul néantisant ? Il y a en lui un pouvoir d'arrachement au monde grâce auquel, justement, il peut s'interroger sur le monde. Et bon, j'essaie d'expliquer ça au maximum. Je sais bien que peut-être vous êtes un peu décontenancé par l'idée, mais voilà, si vous voulez, c'est ce néant, c'est parce que l'homme est capable de néant qu'il peut mettre en question l'être. Et s'il peut mettre en question l'être, c'est parce qu'il n'est pas un être comme les autres êtres.
Et qu'il pose les bonnes interrogations.
Et ben, il n'y a de questions que par lui. Il n'y a de questions que par l'homme. Que par le pouvoir néantisant de l'homme. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il n'y a de question que parce que l'homme n'est pas un être comme les autres êtres, entièrement déterminé par des causes. C'est plus clair ? Ça va ? C'est mieux ? Donc, si vous êtes uniquement déterminé par les causes, vous n'avez pas la possibilité justement de vous arracher à l'être et de vous poser des questions. Vous voyez, c'est-à-dire que la possibilité de se poser des questions sur l'être implique la possibilité de rompre avec l'être. Il y a une rupture. L'homme est cet être qui peut rompre avec l'être, qui peut s'arracher à l'être. Et qui, en ce sens, c'est parce que, justement, s'il peut questionner les choses, c'est parce qu'il a ce pouvoir d'arrachement. Alors, bon, idée qui a du mal à passer, je pense. Pas facile. Bon. Donc, alors maintenant, ça c'est la première néantisation implique, cette néantisation implique que l'homme ait le pouvoir justement de se mettre à distance des choses pour les interroger. Hein? D'accord. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il est capable de ça? Eh bien, la réponse de Sartre, c'est si l'homme est justement capable de s'arracher à l'être pour s'interroger sur l'être. C'est parce qu'il est son propre néant, c'est parce qu'il est un être, justement, porte en lui-même le néant, qui est capable de se nier lui-même. Vous voyez ? C'est ça qui est important. Et Sartre va montrer ici que ce néant qui est au cœur de l'homme, eh bien, on peut aussi l'appeler la liberté. La liberté, justement, c'est ce qui fait que l'homme peut rompre avec ce qu'il est. C'est ce qui fait que l'homme peut se distancier de l'être des choses et s'interroger sur les choses. Et là, Sartre retrouve, d'ailleurs il le dit, retrouve une idée qui n'est pas neuve, hein, puisqu'elle remonte aux stoïciens et elle est reprise par Descartes. Au fond, qu'est-ce que c'est que la liberté, hein, c'est la possibilité, au fond, de se retirer en quelque sorte du monde pour l'interroger. Vous voyez ? Alors, je vais vous citer le passage hein, où je ne sais pas, non, je l'ai pas, je l'ai pas photocopié. Sartre dit la chose suivante, si vous voulez. Cette possibilité pour la réalité humaine de secréter un néant qui l'isole, Descartes, après les stoïciens, lui ont donné un nom. C'est la liberté. La liberté. Hein, c'est, au fond, cette possibilité pour l'homme de s'isoler du monde, justement, de se mettre à distance du monde pour s'interroger sur lui, hein, pour le mettre en question et éventuellement pour le changer. Vous voyez ? Mais c'est cette idée-là. Hein. Alors, c'est ce que fait Descartes, par exemple, dans ses méditations. Alors, à ce stade de l'analyse, la liberté, ce n'est encore qu'un mot. Et il faut poursuivre l'examen. Quelle heure il est ? Je suis...
10h
moins le quart. Bon. À ce stade de l'analyse, donc, Sartre va montrer que, bon, il ne faut pas se contenter du mot liberté, il faut expliquer ce que c'est. Il faut bien expliquer ce que c'est. Et on a bien vu le lien qu'il y a avec le néant, hein, qui est au cœur de l'être. Mais... quand vous entendez parler de liberté, quand vous dites que l'homme est libre, vous en faites la plupart du temps une propriété de l'homme, une qualité de l'homme. Or, c'est pas du tout comme ça que Sartre va parler de la liberté. La liberté, c'est pas une propriété de l'homme. Comme s'il y avait d'abord une essence de l'homme, une nature humaine, hein, qui avait parmi ses propriétés la liberté. Ça, c'est ce que font, c'est ce que disent les philosophes classiquement. Or, pour Sartre, ce n'est pas ainsi. Pour Sartre, c'est pas ainsi qu'il faut penser la liberté. La liberté, c'est ce qui fait justement que l'homme n'a pas d'essence. C'est ce qui fait justement que l'homme n'a pas de définition, mais qu'il est toujours en question dans son être. Vous voyez ? Il est toujours en question dans son être. Et pourquoi il est toujours en question dans son être ? Parce qu'il porte le néant en son être. Et qu'il n'est jamais réductible, au fond, à ce qu'il est. Il est toujours en train de s'arracher à ce qu'il est. Il est toujours en train de s'arracher à ce qu'il est. Alors, voilà. Et c'est pour ça que Sartre, par exemple, ne dit pas l'homme. Il dit la réalité humaine. Il dit la réalité humaine. On ne peut pas parler de l'homme comme on parle d'une table, comme on parle d'une chaise, etc. Il n'y a pas d'essence humaine. L'homme est un être, au fond, qui produit son être, hein, qui ne cesse, au fond, de produire son être, justement, parce qu'il porte en lui le néant. Parce qu'il est toujours en question dans son être. Vous voyez ? C'est-à-dire que le néant qu'il porte en lui, l'arrache permanence à ce qu'il est, hein, pour le projeter vers autre chose. Vous voyez, c'est ce mouvement perpétuel qui caractérise la réalité humaine. Donc, au fond, on ne peut pas parler de l'homme comme si on avait affaire à une réalité déjà achevée, déjà donnée, hein. Et, au fond, le synonyme de la liberté, c'est l'existence humaine. C'est l'existence, l'existence au sens originel du terme, ou en latin, existere, c'est se projeter. C'est se projeter en dehors de soi. C'est, vous voyez, se projeter en avant, en quelque sorte. Sortir de soi, s'arracher à soi. Hein ? Voilà, donc c'est ça qui est caractéristique de la liberté. La liberté, au fond, c'est l'être de l'homme, c'est l'être de la réalité humaine. C'est-à-dire que l'homme, quand Sartre dit que l'homme est cet être qui est son propre néant, c'est la même chose que de dire que l'homme est libre. C'est la même chose. C'est-à-dire que il est son propre néant au sens où il est cet être qui s'arrache perpétuellement à son être, en le néantisant. Donc, vous voyez, c'est la structure ontologique de l'être. C'est-à-dire que, au fond, l'homme ne peut pas ne pas être libre. Il est libre, par essence. Il ne peut pas faire autrement que d'être libre. Il est condamné à être libre. Voilà, c'est ça qui caractérise, effectivement, l'homme. Alors, pour mieux comprendre, au fond, en quoi consiste cette liberté, eh bien, Sartre, à ce moment-là, décrit le mouvement par lequel la conscience humaine se temporalise. Elle se temporalise. Alors, on va lire ici un texte, c'est le texte numéro 4, page 3. Alors, on va essayer, là aussi, d'essayer de faire comprendre cette idée qui est très importante chez Sartre, c'est que un être libre ne peut pas être déterminé par son passé. Si vous êtes déterministe, vous considérez que ce que vous vivez n'est jamais que le résultat de ce que vous avez vécu. Que la conscience présente, c'est le produit de la conscience passée. Or, justement, en étudiant justement ce mouvement de la temporalité, on va comprendre que l'être humain, parce qu'il est conscience, parce qu'il porte le néant en lui, en quelque sorte, il est cet être qui est justement en permanence en train de s'arracher à son passé. Vous voyez ? C'est-à-dire que, il n'y a pas de déterminisme au sens où le passé ne détermine pas le présent, mais il y a négation du passé, mise hors circuit du passé par un acte de néantisation. Alors, vous voyez, je vous explique ça d'abord comme ça, je vais revenir sur mon explication, étant bien conscient que la chose n'est pas facile à saisir. Alors, on va lire le texte. Ligne 2. Si nous considérons la conscience antérieure, envisagée comme motivation, nous voyons tout de suite avec évidence que rien n'est venu se glisser entre cet état et l'état présent. Il n'y a pas eu de solution de continuité dans le flux du déroulement temporel. Sinon, nous reviendrions à la conception inadmissible de la divisibilité infinie du temps et du point temporel ou instant comme limite de la division. Il n'y a pas eu non plus intercalage brusque d'un élément opaque qui aurait séparé l'antérieur du postérieur comme une lame de couteau sépare un fruit en deux. Ils n'ont plus d'affaiblissement de la force motivante de la conscience antérieure. Elle demeure ce qu'elle est, elle ne perd rien de son urgence. Ce qui sépare l'antérieur du postérieur, c'est précisément rien. Et ce rien est absolument infranchissable, justement parce qu'il n'est rien. Car dans tout obstacle à franchir, il y a un positif qui se donne comme devant être franchi. Mais dans le cas qui nous occupe, vainement chercherait-on une résistance à briser, un obstacle à franchir ? La conscience antérieure est toujours là. Elle entretient toujours une relation d'interpénétration avec la conscience présente, mais sur le fond de ce rapport existentiel, elle est mise hors jeu, hors de circuit, entre parenthèses. Bon, je laisse la phrase qui vient après. Ainsi, je lis la phrase qui est soulignée. Ainsi, la condition pour que la réalité humaine puisse nier tout ou partie du monde, c'est qu'elle porte le néant en elle comme le rien qui sépare son présent de tout son passé. Bon, alors, pour là, je vais reprendre la chose, quitte à l'expliquer 15 fois. Peut-être mieux. Alors, voyez l'idée. Si vous considérez le flux temporel de la conscience, il est continu. Hein, il n'y a pas de séparation entre le passé et le présent. Hein, il y a un flux temporel continu, indivisible. Bon. Alors, il n'y a rien d'objectif, si vous voulez, dans le temps, dans le flux temporel, qui puisse marquer une coupure entre le passé et le présent. Il n'y a pas d'intervalle, il n'y a pas de... Bon, hein, c'est de la continuité. Donc, d'où vient la séparation entre le passé et le présent ? Eh bien, d'un acte néantisant de la conscience. D'un acte néantisant de la conscience, c'est-à-dire que c'est la... si vous voulez... alors, pour le dire comme ça, c'est un rien, c'est-à-dire un néant, qui sépare le passé, qui sépare le présent du passé. C'est-à-dire qu'au fond, quand je me rapporte à mon passé, je me rapporte à ce passé comme n'étant plus ce que je suis. Vous voyez, il y a une négation du passé par la conscience. Et c'est ça qui fait la coupure. Il n'y a pas de coupure objective, c'est un rien qui sépare le passé du présent. Et ce rien, ce n'est au fond que le néant. Ce n'est au fond que le néant qui vient de la conscience. Hein ? Voilà ce qu'il faut saisir. Hein. C'est-à-dire que le rien, c'est le rien d'un acte néantisant. D'un acte néantisant. Et ce rien qui n'est, au fond, que le rien d'un acte néantisant, bah, c'est ce qui fait que nous sommes libres. Si nous ne serions pas libres, il n'y aurait pas de sens à parler de liberté si ce que nous étions était purement et simplement le résultat de ce que nous avons été. S'il y avait pure et simple continuité. Or, justement, ce qui fait que je suis capable de m'arracher à mon passé et de le mettre en question, eh bien, c'est justement cet acte que Sartre appelle la néantisation qui vient, justement, de la conscience humaine. Vous voyez, c'est ça qui est remarquable. Et donc, évidemment, c'est ce qui fait que on peut ici... considérait que la liberté, ce n'est pas autre chose que cette néantisation, finalement. Hein, cette néantisation. C'est elle qui fait que je suis capable de me décrocher de mon passé, hein, pour employer des verbes que Sartre a déjà utilisés. Et alors, vous avez une définition assez remarquable de Sartre, où il dit « La liberté, c'est l'être humain mettant son passé hors jeu, en secrétant son propre néant. » Je reprends la formule. C'est l'être humain mettant son passé hors de jeu, en secrétant son propre néant. Voilà, voilà comment on doit pouvoir concevoir la liberté. Au fond, c'est cet acte de néantisation. Par quoi, au fond, je me sépare de mon passé? Je le mets hors jeu, je le mets hors circuit, voyez. Et alors qu'une conception purement et simplement déterministe, qui nie au fond toute liberté, bah, considérera que la conscience présente n'est jamais que le produit de la conscience passée. Là non, hein, y a quelque chose qui échappe au déterminisme, hein, qui est propre au fond à l'être humain. Et ce qui est propre à l'être humain, c'est cette capacité de néantisation grâce à laquelle il s'arrache à lui-même, et pouvant s'arracher à lui-même, il peut s'arracher aussi au monde, aux choses. Et c'est parce qu'il peut s'arracher aux choses qu'il peut aussi s'interroger sur les choses, interroger sur le monde. J'espère que ça commence à être plus clair. Oui. Alors, on va peut-être revenir. Je poursuis. Alors, il y a une dernière chose qui est abordée par le texte. C'est, oui, mais alors comment savez-vous, comment peut-on savoir qu'on est libre? Qu'est-ce qui prouve cette liberté? Quelle preuve en a-t-on? Quelle est l'expérience grâce à laquelle on peut prendre conscience de sa liberté? Et là, la réponse de Sartre, c'est l'angoisse. Alors attention, ce n'est pas une affaire psychologique, c'est une affaire ontologique. Vous allez voir. Et alors là, il y a des exemples qui sont faciles à saisir. Ce que j'ai dit pour l'instant, vous avez paru. Je ne pensais pas que ça vous paraît très compliqué, mais bon, je vois bien que ce n'est pas si simple. Donc l'angoisse. Pourquoi l'angoisse? C'est toute la fin du chapitre 5 qui parle de l'angoisse. Et Sartre dit, dans l'angoisse, l'homme prend conscience de sa liberté. Hein? Alors, vous avez toute une description de l'angoisse, hein, dans le chapitre 5. Et au fond, on va comprendre que c'est par l'angoisse, c'est par l'épreuve de l'angoisse que se révèle au fond à l'homme le néant qu'il habite. Hein? Finalement, prise de conscience de sa liberté ou aussi prise de conscience du néant qui nous habite. Ça veut dire la même chose. Hein? Ce néant qui constitue justement notre liberté, notre pouvoir d'arrachement. Vous voyez? Bon. Alors, pour que les choses soient plus claires, Sartre va d'abord bien distinguer la peur de l'angoisse. L'angoisse, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la même chose. Et il va prendre des exemples. Il va prendre l'exemple du vertige. Alors, parlons d'abord de la peur, si vous voulez. J'éprouve le sentiment de peur quand, par exemple, je suis sur un sentier étroit, sans parapet, et que ce sentier longe un précipice. Je regarde en bas. Bon. Donc ce précipice m'apparaît comme ce qu'il faut absolument à tout prix éviter. Hein, il représente un véritable danger de mort. Bon. Et comme le remarque Sartre, dans la peur, au fond, je me saisis comme un objet parmi les objets. C'est-à-dire que, au fond, la peur est toujours la peur éprouvée devant un danger, devant quelque chose. On a peur de quelque chose. Mais notre peur, elle nous expose à un danger, finalement, qui ne vient pas de nous. C'est-à-dire qu'au fond, je suis exposé à des possibilités qui ne dépendent pas de moi. Il est possible que, je ne sais pas, moi, si j'avance, je glisse sur une pierre et que je tombe dans le précipice. Enfin, c'est la pierre qui se trouve là, ce n'est pas vraiment moi qui suis responsable du fait que je vais tomber. De la même manière, il se peut que le sentier, qui est très friable, s'écroule. Bon, voyez, voilà, j'ai peur de tout ça, et la peur me conduit à faire extrêmement attention, à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter justement de tomber dans le précipice, dans les limites de mes moyens. Est-ce que la peur, c'est la même chose que l'angoisse? Non. Pourquoi? Parce que la peur a toujours un objet, elle est le sentiment que j'éprouve face à un danger, alors que l'angoisse n'a pas d'objet. L'angoisse n'a pas d'objet, elle se rapporte seulement à moi. Comme je vais le montrer, comme Sartre le montre. Elle est ce que j'éprouve lorsque je prends conscience, comme l'écrit Sartre, là je cite Sartre, que si rien ne me contraint à sauver ma vie, rien ne m'empêche de me précipiter dans l'abîme. Le fait d'éliminer le danger, de prendre toutes les précautions qui s'imposent, comme le fait de s'écarter du bord du précipice, ce fait n'enlève pas l'angoisse. Ce qui m'angoisse, c'est ce qui est possible et dépend seul de moi. C'est-à-dire que c'est ce qui peut arriver, notamment si je m'écarte de toutes les précautions, et que, au fond, je décide de tomber dans le précipice. C'est-à-dire, je ne suis pas déterminé par avance à suivre nécessairement toutes les précautions auxquelles j'aurais pensé. Je découvre que, au fond, peut-être, c'est une des possibilités, que loin d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour me protéger, je déciderais finalement, au contraire, de me jeter dans le vide. Vous voyez, c'est ça qui m'angoisse, c'est ce qui vient de moi, c'est ce qui peut venir de moi. C'est la possibilité, justement, de m'écarter de toute précaution, et puis, au fond, de tomber dans le vide. Et rien, de fait, rien, aucune décision présente ne peut m'assurer que, pendant que je longe le précipice, je ne choisirai pas de m'y jeter. C'est-à-dire que le présent ne peut pas déterminer ce que je ferai. Le présent, ce que, bon, bien sûr, là, je cherche à prendre des précautions pour ne pas tomber dans le précipice, mais rien ne m'assure que demain ou tout à l'heure, je ne déciderai pas, finalement, je ne prendrai pas une autre résolution. Vous voyez ? L'avenir n'est pas joué, l'avenir n'est pas tracé. Hein ? Et ici, alors, ne psychologisons pas. N'allons pas dire « Ah ben oui, c'est parce que vous avez une tendance morbide, suicidaire, que vous allez peut-être vous jeter dans le vide. » Non, le problème, c'est pas ça. Ça, c'est une explication déterministe. Non, la question est d'ordre ontologique. C'est-à-dire qu'au fond, ce que veut montrer Sartre, c'est que l'angoisse devant l'avenir me révèle tout simplement que je ne suis pas celui que je serai. C'est-à-dire que je n'agirai pas nécessairement comme ce que j'ai décidé maintenant de faire. Vous voyez ? Il y a une coupure, il y a une séparation entre le futur et le présent. Il n'y a rien qui sépare le futur du présent. Vous voyez ? Et au fond, qu'est-ce que révèle l'angoisse ? Elle révèle le recul néantisant par lequel la conscience échappe à son avenir. Rien ne m'assure que ma décision présente de m'écarter du précipice sera confirmée par ma décision future. Voilà, il n'y a pas de lien nécessaire. Il y a une séparation, une coupure. Et au fond, ce qui m'angoisse, c'est de découvrir justement que rien dans le futur ne peut ici dépendre de ce que je vis maintenant, au présent. Hein, voyez ? Pour le dire comme ça, je suis celui que je serai sur le mode de ne l'être pas. Je suis celui que je serai sur le mode de ne l'être pas. Voyez ? Donc l'angoisse révèle au fond le néant qui habite la réalité humaine et qui fait que les choix que j'effectuerai ne sont pas déterminés par avance. Alors, vous avez un deuxième exemple symétrique, c'est l'angoisse devant le passé. Là, je vous ai mis le texte. On peut le regarder rapidement, si vous le voulez. L'angoisse devant le passé, c'est le texte numéro 5. Texte numéro 5, c'est l'exemple du joueur. Et Sartre a beaucoup lu Dostoïevski. Dostoïevski, c'était un joueur. Hein. Alors, texte numéro 5. Attendez, je l'ai ou pas ? Encore une fois, c'est toujours pareil. Texte numéro 5. Voilà, c'est ça. Bon, je résume un peu. Hein. Je suis un joueur. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai fait le malheur de ma famille. Mais ça y est, j'ai pris la résolution de ne plus jamais jouer. C'est fait, c'est sûr, cette fois-ci, je ne jouerai plus, seulement, comme le dit Sartre, lorsque le joueur s'approche du tapis vert, il voit soudain fondre ses résolutions. Et c'est ça qui est remarquable. Alors, ordinairement, on explique sa défaillance en recourant à une explication déterministe. C'est-à-dire, on considère que s'il échoue finalement à tenir sa résolution, c'est parce que au terme d'un conflit intérieur entre sa passion du jeu et puis son choix raisonnable de ne plus jouer, eh bien la passion l'a emporté. Et finalement, il a cédé à sa passion. Et puis finalement, il a succombé à la tentation du jeu. Voilà comment on explique les choses habituellement. Ben, Sartre refuse ce type d'explication qui ne peut pas vraiment rendre compte des faits. Cette explication occulte l'expérience de l'angoisse. Elle occulte l'expérience de l'angoisse. Et là, Sartre s'appuie sur les lettres de Dostoïevski, justement pour montrer ce que c'est que l'angoisse. L'angoisse devant le passé. Alors lisons la ligne 16. D'une texte, ligne 16, hein, texte numéro 5. La résolution antérieure et des mobiles avant de nous décider, excusez-moi, j'ai mal lu, la résolution antérieure de ne plus jouer est toujours là. Et dans la plupart des cas, le joueur mis en présence de la table de jeu se retourne vers elle pour lui demander secours, car il ne veut pas jouer, ou plutôt... ayant pris sa résolution la veille, il se pense encore comme ne voulant plus jouer, il croit à une efficace de cette résolution. Mais ce qu'il saisit alors dans l'angoisse, c'est précisément la totale inefficience de la résolution passée. Elle est là, sans doute, mais figée, inefficace, dépassée, du fait même que j'ai conscience d'elle. Elle est moi encore, dans la mesure où je réalise perpétuellement mon identité avec moi-même à travers le flux temporel, mais elle n'est plus moi. Elle n'est plus moi du fait qu'elle est pour ma conscience. Je lui échappe, elle manque à la mission que je lui ai donnée. Là encore, je la suis sur le mode du n'être pas. Je suis mon passé sur le mode du n'être pas. C'est-à-dire, au fond... bien sûr, c'est toujours moi, elle est toujours là, ma résolution, ma conscience, c'est moi. Mais je ne suis plus moi du fait que, justement, par la conscience, je m'en sépare. C'est-à-dire qu'ici, c'est encore une fois l'expérience de l'angoisse, elle révèle justement le néant, le rien qui sépare la conscience présente, aussi bien de l'avenir que du passé. C'est pas parce que j'ai pris dans le passé telle résolution que... là, maintenant, cette résolution, je vais la suivre. Et je suis... l'angoisse, justement, elle est ce qui fait que je prends conscience, justement, de cette séparation, de ce rien qui sépare le présent, là, maintenant, de la résolution passée que j'ai prise. Il n'y a pas de nécessité à ce que je suive cette résolution. Je prends conscience de ça. Et c'est ça qui m'angoisse. C'est ça qui m'angoisse. C'est-à-dire que, encore une fois, si l'homme était une chose... s'il avait la réalité d'un être en soi, jamais n'éprouverait l'angoisse. L'angoisse, elle est ce qui fait que je prends conscience brutalement de ma liberté. Je peux, justement, c'est terrible à dire, je me promène le long d'un précipice, oui, je sais que je pourrais décider cet acte insensé de se jeter dans le vide. Aussi curieux que ce... bon, d'ailleurs, je ne le souhaite pas, évidemment, mais... voilà, c'est ça l'angoisse, c'est ça va m'angoisser. Ça va m'angoisser. Je sais que c'est de l'ordre du possible. Je sais que rien ne m'assure que je ferai tout ce qu'il faut pour rester effectivement sagement protégé. Vous voyez ? Eh bien, c'est cette idée-là, hein, si vous voulez, que Sartre expose, et c'est l'angoisse, elle révèle justement la liberté, elle révèle mes possibles, elle révèle mes possibles, et c'est ce qui fait au fond que vous comprendrez que Sartre dit souvent que l'homme est condamné à être libre. Il est condamné à être libre, c'est-à-dire au fond, son avenir, hein, n'est pas tracé à l'avance. Il n'est pas déterminé à l'avance parce qu'il a fait ou parce qu'il a décidé d'être. Hein. Il peut toujours, justement, à tout moment, décider autre chose. Hein. Et donc voilà, c'est ça, au fond, l'angoisse. Elle n'est jamais que la conscience du néant qui sépare la conscience de son avenir comme de son passé. Et alors, à la fin du chapitre, vous avez tout un développement sur l'angoisse éthique. L'angoisse éthique, c'est l'angoisse, au fond, concernant les problèmes moraux. Hein. Et alors là, je vous cite un petit passage. Oui, il faut que je termine. Au fond... L'angoisse éthique, c'est celle qui nous saisit quand nous devons prendre une grande, prendre une grande résolution d'ordre moral, quand nous devons faire un grand choix. Nous découvrons alors que les valeurs morales, ce ne sont pas des choses, ce sont des exigences qui dépendent entièrement de notre liberté. Elles n'existent que par, au fond, notre liberté. Alors, je vais prendre un petit exemple. Je vais citer juste un passage, parce qu'il est très clair et très simple. Je me découvre tout à coup comme celui qui s'interdit, à partir d'un écriteau, de marcher sur une plate-bande ou sur une pelouse, celui qui prête son urgence à l'ordre d'un chef, celui qui fait enfin que des valeurs existent pour déterminer son action par leurs exigences. C'est-à-dire que les hommes sont tentés de croire que les valeurs morales, elles sont fixées par avance. Comme un écriteau qui indique le chemin à suivre, qui indique ce qu'il faut faire. Et les hommes fuient l'angoisse. L'angoisse qui les met en face de leur liberté. Donc ils ont besoin de se faire croire que les valeurs, au fond, elles sont inscrites par avance et qu'elles, au fond, ils indiquent la voie tout simplement qu'il faut suivre sans avoir à se poser de questions. Or, donc les hommes fuient leur propre liberté, ils se dissimulent leur propre liberté et l'angoisse, évidemment, qui va avec, dont cette fameuse conduite que Sartre va ensuite étudier, qu'il appelle la mauvaise foi. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se faire croire que les valeurs, ce sont des indications objectives, en quelque sorte, qu'il faudrait donner par avance, auxquelles il faudrait simplement se conformer. Or, justement, ce n'est pas ainsi que se pose le problème de l'éthique. Les valeurs n'ont de force qu'en étant des exigences, et des exigences qui relèvent de mes choix, de ma propre liberté. Et vous voyez que la liberté est toujours quelque chose d'angoissant. Enfin, nous fuyons notre liberté parce qu'elle est angoissante. C'est ça que veut montrer Sartre. Alors, je suis désolé si cette séance vous a paru trop difficile. J'espère que pourra tout de même arriver à... Donc, il y a des questions. Allez-y, il y a des questions. Non, oui.
Si j'ai bien compris, il y a le néant entre le passé et le présent.
Ouais.
Et il y a aussi le néant entre le présent et le futur.
Oui, les deux. Et étant entendu que le néant, ce n'est pas une chose, hein, c'est ce qui procède de mon acte de néantisation. C'est ce qui fait que l'homme... Enfin, cette idée, je la quitte à la répéter plusieurs fois. L'homme est cet être qui s'arrache à son être. Parce qu'il est néant en son être. Voilà, c'est cette idée-là. Ce néant, c'est ce qui fait que je ne suis pas ce que je suis. Que je suis toujours en train de m'arracher à ce que je suis. Voilà, c'est cette idée. Allez-y, vous vouliez poser une question. Non ?
Non, je me
En fait...
Je ne peux pas vous expliquer plus que ça.
Oui. C'est... Pour inventer un avenir.
Et ça marche pour certains. Voilà. Enfin, c'est mon ressenti. Voilà.
Non, mais... Alors, soyons francs, est-ce que ça vous a paru très compliqué, incompréhensible ?
Non.
Non, mais il faut être franc, hein, je veux dire. Je pense que peut-être qu'il y a une familiarisation aussi qui est. C'est tout le passage. Oui, allez-y.
Oui, y a-t-il un fin jeu de mots à propos du carburateur et de l'essence? Parce que le carburateur, ça assure le mélange entre l'air et l'essence.
Oui, non, là non. Non, d'abord, c'est pas lors de ce passage qu'il parle de l'essence, hein, tout de même. Alors, oui, peut-être faut-il dire, parce que c'est vrai, peut-être que j'emploie parfois des mots qui mériteraient d'être redéfinis à chaque fois. L'essence d'un être, c'est ce qui fait qu'il est ce qu'il est. Enfin, ce sont les propriétés qu'il définit. Or, si on a bien compris ce que montre Sartre, c'est que l'homme est un être que l'on ne peut pas définir, justement. On peut. S'il était une chose, même complexe, on pourrait effectivement en établir la définition, puisqu'il serait ce qu'il est. Il serait une fois pour toutes ce qu'il est. Et justement, l'homme n'est pas un être. Je peux même dire ça comme ça. Il n'est pas un être. Hein, dans la mesure où, justement, il porte en lui le néant, ou alors, je reprends l'expression de Sartre, où il est... excusez-moi, il est... Son être est en même temps... Enfin, je ne sais plus la formule. Attendez, j'ai... Son être est en même temps son néant. Enfin, il a une formule comme ça, hein, si vous voulez. Comment ? Alors, ça, à la limite, ça, c'est compliqué, mais la formule la plus simple, c'est celle que j'ai citée. Parce que son être, dit-il, est son propre néant. Son être est son propre néant. C'est-à-dire que le néant, c'est pas. C'est ce qui fait qu'il produit son être, qu'il est en permanence en train de produire son être en s'arrachant à ce qu'il est. C'est ça, finalement, l'idée. Le néant, c'est ce qui fait qu'il est en perpétuel arrachement à soi, s'arrache à lui-même. Et, au fond, l'intuition est très simple. Hein. C'est parce que l'homme est un être qui s'arrache perpétuellement à lui-même qu'il peut aussi s'arracher au monde et s'interroger sur le monde. J'essaie de le dire comme ça. Oui. Ce que dit Sartre, c'est quel que soit l'être humain et sa situation. Hein. C'est-à-dire que la liberté. Parce que nous aurions tendance, quand nous parlons de liberté, à y voir une situation. Or, c'est pas comme ça qu'il en parle. La liberté, ici, c'est, au fond, c'est la structure ontologique de l'homme. C'est-à-dire, au fond, c'est son être. C'est-à-dire que l'homme est un être qui est libre au sens où. Justement, il n'est pas, où il est perpétuellement en question dans son être, où il est, un perpétuel arrachement à son être, etc., etc. Au fond, c'est toujours la même idée qui revient. J'essaie de le dire de plusieurs façons, mais c'est ça qui est en permanence. Hein. Et oui, allez-y, oui. Là, c'est vrai que il va montrer qu'on est libre en situation. On ne choisit pas la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que, par exemple, que je sois né de tels parents, dans tel pays, dans telle condition sociale, etc., je n'ai pas choisi. Mais je me choisis à partir de ça. C'est en ce sens que je suis libre. Je ne suis pas libre au sens où je peux faire abstraction du monde et des choses, c'est pas vrai. Non, je suis libre au sens où, bien sûr que je suis en situation, la situation je ne la choisis pas, mais c'est moi qui choisis le sens que je donne à ma situation. Elle ne détermine pas ce que je vais en faire. C'est-à-dire qu'au fond, l'homme est cette être qui peut mettre en question cette situation et qui, pouvant la mettre en question, justement, ne s'y réduit pas. une conception purement et simplement déterministe dirait la situation détermine tout ce que je fais. Voilà. Et Sartre, alors, donc c'est vrai que tout le problème, c'est que comme nous avançons progressivement dans l'œuvre, c'est vrai que ça, il va le préciser après. Hein, il va montrer que, bon, je ne choisis pas ma situation, ne serait-ce que je ne choisis pas la façon dont les autres me regardent et me définissent. Et il faut bien que j'assume ça, il faut bien que je me détermine par rapport à ça. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Hein, vous voyez, ça, alors là, c'est la situation, c'est justement ce qui ne dépend pas de moi, ce que je ne choisis pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis entièrement ce que la situation a fait de moi. Voilà, ça, vous voyez, vous comprenez le truc. Bon, ce qui est proprement de l'ordre de la liberté, c'est cette capacité d'arrachement, encore une fois, à soi, qui fait que je mets en question ma situation. Et que je vais lui donner sens, et que c'est jamais entièrement, définitivement joué. Jusqu'à ma mort. La seule, comme dit Sartre, c'est la vie, c'est la mort qui transforme la vie en destin. C'est-à-dire que quand je suis mort, ça y est, je suis. J'ai un être. Je suis ce que les autres diront que j'étais. Mais tant que je suis vivant, je suis en perpétuelle question dans mon être. Je ne suis pas, justement. J'ai à être toujours. Vous voyez, alors, vous voyez, ce sera toujours la même idée qu'on on essaiera de reprendre plusieurs manières, que vous retrouverez, si vous voulez, avec Sartre. Et c'est ce néant, vous voyez, ce qu'il appelle le néant, donc c'est au fond l'élément moteur, en quelque sorte, de l'existence. C'est ce qui fait que nous ne sommes jamais, une fois pour toutes, quelque chose. Je ne peux pas me la jouer comme l'ancien combattant qui dit « Ah, j'ai été un héros et une quinzaine d'années, donc je suis maintenant nécessairement toujours un héros. » C'est pas vrai. c'est jamais joué. Voilà. C'est pas parce que j'ai été ceci ou cela que je le serai toujours. Enfin, alors, évidemment, il y a le poids d'un certain nombre de choses qui vont peser. Mais tout ça, c'est vrai. Mais il y a cette capacité, vous voyez, de s'arracher à soi et de mettre en question sa situation, qui est toute la liberté. Et qui échappe au déterminisme. Et même, c'est ce que j'essayais de vous dire, peut-être que là, il faudrait que je le redise mieux, que même se poser même la question du déterminisme, c'est-à-dire celui qui se pose la question, oui, mais pourquoi... dans quelle mesure je ne suis pas le résultat des conditions familiales, sociales, etc., etc. Pour pouvoir même se poser cette question, il faut ne pas être complètement pris dans le déterminisme. Vous voyez ? Pour pouvoir se poser la question des causes qui nous déterminent, il ne faut pas être complètement captif, complètement déterminé par ces causes. Seul un être libre peut s'interroger sur les causes qui déterminent son acte. Il y a quelque chose d'irréductible. Il y a quelque chose d'irréductible, si vous voulez. Qui fait qu'il ne peut pas être comme une chose entièrement le résultat de ce qui a été. Ah, j'essaie de dire comme je peux. Oui, allez-y.
Mais dans les deux exemples, celui du carburateur, ouais, et celui de l'absence de Pierre, ouais, il y a une attente,
oui,
du fait du questionneur, mais...
Oui.
La réponse va dépendre de l'attente qu'il va proposer au départ. Et moi, ça me semble un petit peu binaire, c'est-à-dire si j'entre en me demandant si Pierre est là ou pas, ce n'est pas la même chose que si j'entre avec l'attente de peut-être trouver une belle rousse dans le café, auquel cas je vais me dire, tiens, celle-ci, elle est rousse, mais elle n'est pas belle, celle-là, elle est belle, mais elle n'est pas rousse, celle-ci peut-être, etc. Ça va être moins binaire que... Ça,
c'est pas le même genre d'attente, hein, là.
Ça me semble un peu de l'ordre du non. Et ça me gêne un peu.
Oui. Mais la rousse ne peut pas savoir à l'avance s'il y a une rousse, de toute façon. Je n'attends pas la rousse. Je n'attends pas. je vais avoir la chance de la découvrir, mais je n'attends pas.
De nier quelque chose, semble un peu schématique.
Alors, il nie pas, comment dire, l'exemple, c'est quoi? C'est, j'ai rendez-vous. Bon, je pense, j'espère qu'il est là. Je crains qu'il ne soit plus là. Bon, mais, et tout ce processus par lequel il va parcourir du regard la salle pour voir s'il est là. Bon, tout ça, d'accord. Donc, vous voyez bien que, ah, je vois qu'il n'est pas là. C'est ça qui m'intéresse, je vois qu'il n'est pas là. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais surgir par mon attitude, même, ça.
Oui, c'est ça, ça. Mais si je demande « Dieu existe-t-il ?», en quelque sorte, c'est parce que je m'attends à la possibilité qu'il puisse exister.
Vous avez dit qu'il n'existe pas.
Qu'il n'existe pas. Oui. Bon, parce qu'on va déjà parler de Dieu, n'est-ce pas,
oui.
Le catéchisme. Mais peut-être la question
oui,
est
mais,
mal posée.
Ouais, mais
c'est intéressant de se la poser.
Oui, mais là, disons que comme ça, à brûle pour point, je vous répondrai que il me semble difficile de néantiser Dieu tout de même, de le détacher. Là, dans l'exemple de Pierre, je peux néantiser la salle, le café. Pour voir s'il apparaît, et c'est parce que effectivement j'échoue au fond à le découvrir en néantisant la salle et en néantisant les visages que j'intuitionne son absence. Il y a tout un est-ce que avec Dieu je vois pas. Est-ce qu'il est dans la salle? Je vois pas trop. Non, j'ai du mal. Vous voyez, je là, il y a l'expérience d'une perception, tout de même. Hein. C'est sur le fond. C'est sur le fond d'une perception, tout de même, qu'a lieu la néantisation. C'est sur un fond d'être, tout de même, qu'a lieu le processus de néantisation. Hein. Il faut que quelque chose existe pour le néantiser. Il faut qu'il y ait un donné pour qu'il soit néantisé. Vous voyez voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut... On est dans le réel. Oui, il faut une réalité. Il faut une réalité à laquelle je puisse m'arracher pour dire voilà, il n'y a pas de Pierre, il n'est pas là. Vous voyez avec Dieu, ça ne marche pas. C'est ça le truc.
C'est... Ça marche pas.
Oui. Oui, mais là, c'est pas. Oui, mais c'est autre chose.
Le silence de Dieu, c'est aussi.
Quand même, il y a des choses comme ça.
Alors, comment dire? Est-ce qu'il y a une question ou deux? Alors, peut-être, si vous avez, encore une fois, trouvé que c'était compliqué, pas simple. Bon, franchement, vous n'hésitez pas, hein, moi, je. Bah, si, ça devrait l'être tout de même. Attendez.
Exprimer sa pensée, cette philosophie, comment ça a été reçu par ses pairs.
Moi, je vais vous dire, sincèrement, bon, peut-être parce que c'est aussi mon boulot et ma pratique, moi, je n'ai pas trouvé le texte trop dur. Par contre, je vois pourquoi vous trouvez ça difficile, parce que vous n'êtes pas habitué. Oui, oui, parce que c'est déroutant, mais c'est pas, l'idée n'est pas forcément compliquée. L'idée que, sur laquelle vous avez buté quand j'expliquais le déterminisme et le fait que l'homme est cet être qui n'est pas entièrement pris dans le déterminisme, sinon il ne pourrait pas adopter une distance à l'égard du réel, cette idée-là, vous avez eu vraiment du mal à le saisir. Alors, je ne la trouve pas compliquée, personnellement. Mais il faut revenir dessus, quoi. Il faut revenir dessus. Vous voyez, moi, par exemple, autant je trouvais que l'introduction, effectivement, là, franchement, je la trouve très difficile parce qu'elle présuppose aussi des connaissances que le lecteur ne peut pas avoir. Il s'adresse tout de même à un lecteur là qui est déjà armé, hein, faut le dire les choses. Là, par contre, si je suis le cheminement du texte, il me paraît pas bon. Faut s'accrocher un peu, mais il ne paraît pas inaccessible.
La notion d'être
difficile à
oui. concevoir. Oui, oui, mais c'est vrai qu'il faut décomposer beaucoup les choses. Par exemple, je veux dire par là, cette idée, bon, quand il l'exprime en disant, quand il dit que je peux échapper à l'ordre causal des choses, bon, voilà, moi, c'est une formule que je comprends. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce genre de formule. Pareil, bizarre. Enfin, et, alors évidemment, quand vous expliquez patiemment ce que c'est que le déterminisme, c'est ce qui fait qu'au fond, ce que je suis est entièrement déterminé par les causes et que je ne peux pas être autre chose que ce que les causes ont fait de moi, là, je comprends. Et justement, ce que veut montrer Sartre, c'est que si l'homme est un être libre, c'est justement parce qu'il échappe à l'être. Il ne peut pas être simplement le résultat de ce que des causes ont fait de lui. Il y a en lui du néant qui fait qu'il s'arrache à l'être et qu'il peut mettre en question les choses. Vous voyez, on revient toujours... En fait, c'est toujours la même intuition qui revient, finalement. C'est pour ça que c'est pas si compliqué que ça, mais... Vous voyez, moi, je pense toujours que les philosophes, ils disent une chose très simple, mais ils la développent beaucoup. Mais ils la développent beaucoup parce que c'est nécessaire. C'est pas parce que superfétatoire, c'est parce que c'est nécessaire. C'est une intuition qui va devoir être développée au maximum pour être comprise au maximum. Bon, et là, on a ça. Mais allez-y, hein, dites-moi vos impressions et vos. Et puis, dernière question. Ah, alors ça. Ouais, alors. C'est vrai que L'être et le néant est un texte. C'est un texte qui n'aborde pas ça. C'est vrai qu'on est dans la partie de son œuvre où l'engagement politique n'est pas présent. Ça va être. C'est vrai qu'on a fait un choix, hein. On ne pourrait pas parler de tout. Hein. Je n'ai pas parlé de toutes les œuvres qui vont venir ensuite après la guerre. Alors là où, évidemment, l'histoire, la politique sont présents. Là, c'est. Alors que. Bon, alors il ne s'agit pas non plus de dire que les textes qui viendront plus tard n'ont aucun lien avec L'être et le néant. Il y a une continuité tout de même. Et on peut trouver même, peut-être déjà, à la limite, au fond, ce qu'on va dire de la liberté. Et l'engagement, c'est déjà là, présent, hein, d'une certaine façon. Hein. L'homme est condamné à être libre. Alors c'est une formule tarte à la crème qu'on ne peut pas bien comprendre si on n'a pas suivi, voyez, le raisonnement qui est celui de Sartre. On a l'impression que c'est une formule comme ça, un peu provocatrice. Et non, ce n'est pas une formule provocatrice. Elle exprime réellement la conception qui est celle de la liberté de Sartre. C'est-à-dire que la liberté, c'est ce qui définit l'être de l'homme. Enfin, c'est constitutif de l'être de l'homme parce que l'homme est son propre néant. Voilà. Alors, il ne peut pas ne pas être libre. Voilà, c'est ça en fait. Il ne cesse pas d'être libre, même quand il est captif, même quand il est prisonnier, même quand il est au sens où il est cet être qui se met en question dans son être en permanence. Il est conscience, quoi. Et la conscience, ça change tout. Voilà, il est conscience. Voilà. Et donc, alors je suis d'accord avec vous. Hein. Ça, c'est vrai que c'est pas dans l'être et le néant qu'on va trouver, encore toutes les considérations sur la politique. Si j'ai un petit peu parlé de la question juive, tout de même. Là, mais c'est après la guerre, juste après la guerre, parce que. On va trouver dans son théâtre, j'essaierai de parler de huis clos et des mouches, mais on pourrait faire plein de choses. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt.